Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Adaptation Victoria Cahario.
Marie aimait son prénom. Moins banal qu'on ne le croyait, il la comblait.
Oui, qui est-ce ?
Quand elle disait qu'elle s'appelait...
Marie.
Cela produisait son effet. Le nom ne suffisait pas à expliquer le succès. Elle se savait jolie. Grande et bien faite, le visage éclairé de blondeur, elle ne laissait pas indifférent. À Paris, elle serait passée inaperçue, mais elle habitait une ville assez éloignée de la capitale pour ne pas lui servir de banlieue. Elle avait toujours vécu là. Tout le monde la connaissait.
J'ai envie de danser.
Marie avait 19 ans. Son heure était venue. Une existence formidable l'attendait, elle le sentait. Elle étudiait le secrétariat. Ce qui ne présageait rien, il fallait bien étudier quelque chose. On était en 1971.
Place aux jeunes.
Oui, place aux jeunes.
Tu danses, Marie ?
Ils veulent tous danser avec elle. Pourquoi pas ? Attention, tu marches sur les pieds.
Tu es si belle.
Elle est vraiment trop belle.
Après une enfance calme et une adolescence ennuyeuse, enfin pour Marie, la vie commençait.
Désormais, c'est moi qui compte. C'est enfin mon histoire. Ce n'est plus celle de mes parents ni de ma sœur. Quel plaisir d'être 100 fois respirée, 1000 fois convoitée, jamais butinée.
Encore une, Marie.
Encore ? Et non Dieu que pour elle.
Il y avait une joie encore beaucoup plus puissante. Il s'agissait de susciter la jalousie des autres. Quand Marie voyait les filles la regarder avec cette envie douloureuse, elle jouissait de leur supplice au point d'en avoir la bouche sèche. Si l'on avait tenté de lui expliquer que l'envers de la jalousie équivalait à de la jalousie et qu'il n'y avait pas de sentiment plus laid, elle eût haussé les épaules. Et aussi longtemps qu'elle dansait au centre de la fête, la joliesse de son sourire pouvait donner le change. Le plus beau garçon de la ville s'appelait...
Je m'appelle Olivier.
Marie.
Élancé, très brun comme un méridional, Olivier était le fils du pharmacien et reprendrait ce métier. Gentil, drôle, serviable, il plaisait à tous et à toutes.
Qu'il est beau.
Qu'il est beau. Qu'il est beau.
Qu'ils sont beaux.
Elle n'eut qu'à apparaître et le tour fut joué. Olivier tomba fou amoureux d'elle. Dans le regard des filles, l'envie douloureuse laissa place à la haine. Et la jouissance qu'elle éprouva à être ainsi contemplée la fit trembler. La suite se déroula selon une mécanique vieille de 100 000 ans. Marie, qui craignait d'avoir mal, s'étonna d'éprouver si peu de choses. Elle aima incarner l'espace d'une nuit, le meilleur espoir féminin. 6 semaines plus tard, elle déchanta. Elle courut chez le médecin qui lui confirma ce qu'elle redoutait.
Mon chéri, c'est merveilleux. Épouse-moi. Tu veux pas ?
Oh, si. Mais j'aurais voulu que ça se passe autrement.
Qu'est-ce que ça change ? Quand on s'aime autant que nous nous aimons, on a des enfants très vite de toute façon. Pourquoi attendre ?
J'aurais préféré que les gens ne soupçonnent rien.
Ils ne soupçonneront rien. Ils ont vu tout ce temps qu'ils sont que nous sommes fous amoureux. Nous nous marierons dans 2 semaines. Ton tour de taille sera toujours celui d'une jeune fille.
<t'-> noce fut aussi parfaite que pouvaient l'être des épousailles si vite préparées.
Mariage pluvieux, mariage heureux.
Ils sont adorables.
Sur les photos, on vit un jeune homme éperdu de joie et une jeune femme au sourire contraint. Le jeune couple s'installa dans une jolie maison de ville, non loin de la pharmacie. L'épouse aurait adoré choisir ses meubles, mais dès le deuxième mois de sa grossesse, une fatigue hors norme s'empara d'elle.
Oh, oh, j'ai envie de dormir. Dormir.
Le médecin assura que le phénomène était courant, en particulier chez les primépares. Ce qui fut moins normal, c'est que cet épuisement dura jusqu'au neuvième mois. Les rarissimes fois que Marie ne dormait pas et pensait, elle se disait
« Je suis enceinte. J'ai 19 ans et ma jeunesse est déjà finie.
C'est une fille. »
Marie vécut l'accouchement comme un retour brusque et désagréable dans le réel. Quand elle entendit les vagissements du nouveau-né, elle fut stupéfaite. Ainsi donc, pendant tout ce temps, elle avait contenu quelqu'un.
Entrez.
Tu es la plus belle petite fille que j'ai vue de toute ma vie. Ma chérie, regarde le chef-d'œuvre que tu as fait.
Elle est toute brune. On dirait toi en fille. On devrait l'appeler Olivia.
Non, elle est belle comme une déesse. Nous l'appellerons Diane.
On était le 15 janvier 1972. Marie avait 20 ans.
Allez, bois. C'est fini. J'ai 20 ans et c'est déjà fini. Comment la jeunesse peut-elle être si courte? Mon histoire n'aura duré que 6 mois.
C'est moi!
Ma beauté, mon trésor, mon bonheur. Ma chérie, que tu es pâle.
Je suis fatiguée.
À la longue, Olivier s'inquiéta.
Merci. Il en reste que Marie ne se lève plus de son lit. Elle ne sourit plus, elle n'a envie de rien. Et elle est d'une pâleur. Vous la connaissez, c'est votre fille, vous l'avez bien vue vous-même. Ça fait des mois maintenant que son état ne s'améliore pas. À mon avis, elle fait une dépression postpartum, non? La seule chose dont elle semble avoir envie, c'est de travailler. Vous accepteriez de garder la petite? Ne serait-ce qu'un temps?
Avec joie.
Merci. Merci.
Béni soit Olivier.
Je n'aurais jamais cru que Marie ferait une dépression.
Dépression, tu parles? Elle est maladivement jalouse de sa fille, c'est ça qui l'empoisonne.
Que peut-elle jalouser à un bébé?
La petite est ravissante. Elle attire l'attention, ça lui suffit.
Tu crois qu'elle la maltraite?
Non, Marie n'est ni méchante ni folle, mais elle ne manifeste aucune tendresse à l'enfant. Pour la pauvre Diane, ça ne doit pas être très agréable.
Comment peut-on ne pas aimer un angelot pareil?
Marie se passionna pour son nouveau travail, la comptabilité. Elle suivit une formation accélérée qui révéla ses dons. Les chiffres, qui l'ennuyaient dans l'absolu, la fascinèrent dès qu'ils représentèrent de l'argent. L'argent était cette valeur géniale qui suscitait l'envie d'autrui. Olivier tomba encore plus amoureux de son épouse, qui ne tarda pas à retomber.
Je suis enceinte.
Cette fois-ci, elle n'en parut pas incommodée. elle ne changea rien à ses habitudes et travailla comme toujours.
Tiens, voilà Diam. Olivier passera la chercher à 18h.
Bonjour, ma chérie.
Ma toute belle.
C'est ridicule de lui parler comme ça.
Au revoir, Marie.
Ma merveille, ta mère n'est pas méchante.
Elle est seulement jalouse.
Elle l'a toujours été. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Jalouse, tu comprends?
Ce sera notre secret.
Diane avait-elle déjà entendu le mot jalouse? Quoi qu'il en fût, elle eut le sentiment de savoir ce dont il s'agissait. Elle y vit une bonne nouvelle. Ce qui empêchait sa mère de lui montrer son amour, c'était la jalousie.
C'est un garçon.
Quelle merveille.
Oui.
Diane, ma chérie, viens voir ton petit frère, Nicolas.
Nicolas.
On dirait Diane en garçon.
Oui, vous avez raison, c'est le portrait de sa sœur.
Diane le trouva beau et l'aima.
Il est magnifique, n'est-ce pas?
Mais ce qui la frappa fut l'évidente adoration de sa mère pour Nicolas.
Il est vraiment magnifique.
Vraiment.
Merci.
Pour Diane, ce fut une révélation. Sa mère n'était pas jalouse de son frère. Cela changeait donc tout que le bébé fût un garçon. Étrangement, Diane n'en souffrit pas. Elle aimait qu'il y ait une explication. Cela la rassurait. À 2 ans et demi, Diane commença l'école maternelle. Elle en fut ravie. La maîtresse était gentille et elle avait de longs cheveux qui la rendaient très belle. Et elle aimait autant les filles que les garçons. Diane était si sage que la maîtresse l'adorait. Elle la prenait dans ses bras et la petite sentait avec ivresse les longs cheveux lui caresser le visage. Bien vite, maman fut à nouveau...
Je suis enceinte.
Enceinte.
C'est une fille.
Rien ne se passa comme prévu. Maman était extatique. Telle la Vierge brandissant Jésus, elle leur présenta un bébé joufflu.
Voici Célia.
Une belle petite.
Toute ronde.
N'est-ce pas? Oh, qu'elle est belle.
À la naissance de Nicolas, maman était heureuse et aimait son bébé. Cette fois, maman délirait de joie et débordait d'amour pour Célia. Elle l'embrassait comme si elle allait la manger.
Comme je t'aime, mon bébé d'amour.
C'était obscène. Diane cessa d'être un enfant à cet instant.
Maman, j'ai tout accepté. J'ai toujours été de ton côté. Je t'ai donné raison jusque dans tes injustices les plus flagrantes. J'ai supporté ta jalousie parce que je comprenais que tu attendais davantage de l'existence. J'ai enduré que tu m'en veuilles des compliments des autres et que tu me le fasses payer. J'ai toléré que tu montres ta tendresse à mon frère alors que tu ne m'en as jamais témoigné une miette. Mais là, ce que tu fais devant moi, c'est mal. Je pensais que ce qui t'empêchait de me manifester ton amour, c'était que je sois une fille. Or, à présent, sous mes yeux, l'être que tu arroses de l'amour le plus profond que tu aies jamais manifesté, c'est une fille. Mon explication de l'univers s'écroule. Et je comprends que tout simplement, tu m'aimes à peine. Tu m'aimes si peu que tu ne penses même pas à dissimuler un rien ta passion folle pour ce bébé. La vérité, maman, c'est que s'il est une vertu qui te manque, c'est le tact.
L'été fut un enfer. Chaque jour, il fallait reprendre conscience de cette abjection. Maman qui arrivait au petit déjeuner en gazouillant avec Célia. Il fallait lutter contre l'appel du gouffre dans la poitrine. Il fallait ne pas haïr ce bébé qui n'était pas responsable de la débauche de cet amour maternel. Mi-août, n'y tenant plus, Diane supplia Mamie de la garder. Olivier ne s'inquiéta pas du désir de son aîné d'aller habiter chez ses grands-parents. Il savait qu'elle les adorait et elle reviendrait chaque week-end. Un jour qu'elle rentrait de l'école, Diane dut contourner des travaux et s'aventura sur la chaussée. Elle vit un camion rouler droit vers elle. Hypnotisée par ce bolide, elle ne s'écarta pas. Il pila trop tard. Elle fut renversée. Le conducteur épouvanté appela les secours. Il raconta aux ambulanciers l'attitude étrange de la fillette, qui heureusement n'avait rien de sérieux. Ce fut Olivier qui reçut l'appel de l'hôpital. Il arriva en quatrième vitesse et prit sa fille dans ses bras.
Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?
Diane dit qu'elle avait eu peur et qu'elle n'avait pas eu le temps de courir vers le trottoir.
Promets-moi que tu feras très attention désormais, hein ? Promets-le-moi. Ah, bonjour docteur. Diane va bien, je peux la ramener à la maison ?
Je préfère la garder une nuit en observation.
Bon.
Vous pouvez partir maintenant. Vous inquiétez pas, tout ira bien.
Je reviens te chercher demain, d'accord ?
Diane, est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir ?
Je veux vivre.
Je te crois. Demain, tu pourras rentrer chez toi.
Diane passa la nuit dans sa chambre d'hôpital à repenser à leur échange. Le docteur lui avait posé une seule question, celle qu'elle n'avait pas osé se poser à elle-même. En une interrogation, il avait changé son destin. Non seulement parce qu'elle avait décidé qu'elle vivrait, mais aussi parce qu'elle avait enfin un objectif, exercer la profession de cet homme. Elle serait médecin. À 11 ans, se découvrir un but change tout. Ce qu'il fallait, c'était grandir. Au collège, Diane vit ses camarades se livrer aux prémices de l'amour. Comme elle était la plus belle fille de la classe, elle attirait les prétendants. Mais aucun d'eux ne trouvait grâce à ses yeux. Elle consacrait le plus clair de son temps à l'étude. On la voyait toujours à la bibliothèque, compulsant des livres de biologie aux dimensions décourageantes. L'entrée au lycée changea sa vie. Pour la première fois, il y avait de nouvelles têtes. Diane repéra une jeune fille blonde au beau visage hautain.
Je m'appelle Elisabeth II.
Elisabeth II, tu te prends pour la reine d'Angleterre.
Pour qui elle se prend, celle-là, avec sa chemise blanche et son pantalon en flanelle? C'est mon vrai nom. Mes parents s'appellent Monsieur et Madame II. Et comme ils ne manquent pas d'humour, ils m'ont baptisée Elisabeth.
Diane ressentit quelque chose d'inconnu. Son âme se dilata d'enthousiasme et d'admiration. Elle déplora ses 14 ans et demi qui ne lui permettaient plus d'aller simplement dire à Elisabeth
« On est amis, d'accord ?»
Elles devinrent inséparables. Diane osa lui confier son secret.
« Alors c'est pour ça que tu habites chez tes grands-parents ?»«
Oui. »
Comme il n'y avait plus d'Omerta, Diane accepta l'invitation d'Elisabeth à venir chez elle. Monsieur et Madame II adoptèrent la nouvelle meilleure amie. Les adolescentes passèrent la nuit entière à parler. Le lendemain, la voiture des grands-parents fut percutée par un camion dont le conducteur s'était endormi au volant. Ils moururent sur le coup. Diane était au lycée quand elle apprit la nouvelle. Elle s'évanouit.
Mais qu'est-ce que je fais ici ?
Vous êtes hospitalisée depuis une semaine. Vous avez eu 41 de fièvre et des convulsions. Je n'ai jamais vu quelqu'un réagir si violemment à un deuil.
Mes grands-parents étaient tout pour moi. J'ai même pas pu leur dire au revoir.
Vous vous recueillerez sur leur tombe. Il y a autre chose, jeune fille. Je me souviens de vous. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir à votre sujet avec votre meilleure amie et avec votre famille. Vous n'irez pas habiter chez vos parents. Les parents de votre amie sont disposés à vous héberger.
Comment mon père et ma mère ont-ils pris la chose ?
Votre père a semblé un peu blessé. Votre mère a seulement déclaré qu'elle n'était pas surprise, et qu'il valait sans doute mieux que vous ne veniez plus le week-end. Rassurez-vous, votre amie m'a expliqué.
Croyez-vous que ma mère me déteste ?
Non. Votre mère jalousait sûrement le lien que vous aviez avec ses parents. Elle les aimait très fort. Il vaut mieux pour elle, comme pour vous, que vous n'ayez plus affaire à elle pendant quelque temps.
Je perds à la fois mes grands-parents et mes parents. Mon frère et ma sœur.
Votre frère, vous le verrez au lycée. Et vos parents, vous les retrouverez. Un jour, votre rapport avec votre mère ne sera plus toxique. Je pense que pour le moment, ce serait dangereux pour vous de trop la côtoyer.
Et ma sœur ?
Je suis au courant de ce qu'elle subit. Aucune loi n'interdit de couver son enfant à ce point. Mais dans un certain sens, elle est plus à plaindre que vous.
Monsieur et Madame Deux accueillirent Diane avec toute l'affection qu'ils lui avaient jusque-là témoignée. Elle était l'amie de leur fille et donc leur enfant. Diane avait sa chambre, voisine de celle d'Elisabeth. Une existence neuve commença. Au lycée, on les appelait... Les intéressés ne s'en préoccupèrent pas. Diane perdit un peu de son prestige, Elisabeth en gagna beaucoup. Les années passèrent sans que Diane émerge du deuil de ses grands-parents. Un jour qu'elle voulait se recueillir sur leur tombe, elle eut le choc d'y apercevoir sa mère en pleurs. Elle s'enfuit sans être vue de celle-ci, mais la souffrance de la revoir fut si vive qu'elle mesura dans son âme l'ampleur des dégâts. Seul le travail ne représentait aucun danger. Elle s'y engouffra. Elle réussit le bac avec la plus haute mention et s'inscrivit en médecine à l'université de la ville, qui avait grande réputation.
Alors, passons au cas.
En septième année de médecine, au moment de devenir interne, Diane choisit la cardiologie. L'un des maîtres de conférence, Olivia Aubusson, produisit sur elle une impression immense. Le maître de conférence, qui pouvait avoir 40 ans, était une petite femme rousse au beau visage imposant. Quand elle parlait, ses yeux s'animaient et elle devenait la personne la plus séduisante qui se pût concevoir. Diane prit l'habitude de l'attendre à la sortie du cours pour lui dire son enthousiasme. Flattée des compliments de cette fille d'une beauté supérieure, l'enseignante lui manifesta de la sympathie et lui proposa un soir d'aller boire un verre.
Appelez-moi Olivia.
Je ne sais pas si je parviendrai à appeler un professeur par son prénom.
Peut-être pas en cours. Mais là, vous le pouvez. Et puis, je n'ai pas le titre de professeur.
Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas ?
C'est une longue histoire plutôt ennuyeuse. Au final, c'est mieux. Regardez Michaud, Salmon, Pouchard, ils ont le titre, eux. Croyez-vous que j'ai envie de leur ressembler ?
Ils sont nuls.
Je n'irai pas jusque-là. Disons que le mandarinat leur est monté à la tête et que cela ne les a pas améliorés. Eh oui. Voilà ce qui se passe quand on est obsédé par les honneurs. Moi, ce qui m'obsède, c'est de former de bons praticiens, de leur enseigner la rigueur. Je suis consternée par les approximations qu'ils se permettent dans notre spécialité. Et vous, pourquoi avez-vous choisi la cardiologie ?
Ça s'est fait en deux temps. À 11 ans, j'ai décidé que j'étudierais la médecine parce que j'avais rencontré un médecin extraordinaire. Quant à la cardiologie, je vous préviens, ma motivation va vous paraître idiote.
Allez-y.
C'est une phrase d'Alfred de Musset qui m'a impressionnée. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Je vous avais prévenu, c'est idiot.
Mais non, je trouve ça magnifique. Jamais je n'avais entendu cette phrase. Ni une motivation aussi étonnante. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Alfred de Musset, c'est ça ?
Oui.
Quel type ! Quelle révélation ! Savez-vous qu'il avait raison ? C'est un organe qui n'a rien à voir avec les autres. Je comprends que les anciens y aient vu le siège de la pensée, de l'âme et de ces sortes de choses.
J'avais peur que vous vous moquiez de moi.
Vous plaisantez, c'est fabuleux. Je vous rencontre à peine et déjà vous m'enrichissez.
La soirée se poursuivit sur ce ton. Quand Diane rentra chez elle, elle était dans un état second. Jamais elle n'avait été à ce point enthousiasmée par quelqu'un. Que cette femme supérieure s'intéressât à elle, et alla jusqu'à lui laisser croire qu'elle pouvait l'enrichir, la bouleversait. Fallait-il qu'elle fût généreuse pour lui suggérer cela?
Mesdames, qu'est-ce que je vous sers?
Pour moi, ce serait une salade de crudités avec la sauce à côté.
La même chose pour moi.
Et une bouteille d'eau minérale, merci. Bien. Je ne sais pas qui est le plus macho, d'un carabin ou d'un professeur.
Cela a-t-il joué un rôle dans le fait que vous ne soyez pas titularisé?
Sûrement. D'autant que j'ai eu un enfant il y a 10 ans. On ne me l'a jamais pardonné. Mais si je n'avais pas eu d'enfant, on m'aurait jugé encore plus sévèrement. Même quand on enseigne à l'université, on n'échappe pas aux mentalités provinciales.
Alors, 2 salades sans sauce et une bouteille d'eau minérale.
Merci. Vous avez toujours vécu ici?
Oui, j'avoue que je suis très attachée à notre ville. Yves Pouchard, lui, n'a qu'un rêve, c'est de monter à Paris. Vous l'imaginez à Descartes, lisant ses notes qu'il a toujours l'air de découvrir pour la première fois au point qu'il accumule les bévues. Un jour, lors d'une conférence, il a parlé d'analyse sanguinaire.
Pour de vrai?
Oui, pour de vrai.
Olivia avait 1000 anecdotes de ce genre à raconter. Ces déjeuners devinrent une habitude. Quand les deux femmes arrivaient à la brasserie, elles n'avaient plus besoin de passer commande. On leur servait sans tarder les 2 salades et la bouteille d'eau minérale. Diane trouvait cela un peu léger à son goût, mais elle n'eût échangé sa place pour rien au monde. Son lien avec Olivia Aubusson donnait un sens à sa vie. Elle voulait à la fois lui ressembler et faire équipe avec elle. Ce qu'on lui reprochait depuis son enfance, son sérieux, sa rigueur, ce que sa mère appelait sa froideur, était enfin valorisé. Leur connivence n'était cependant pas passée inaperçue et suscitait quelques sarcasmes prévisibles, tant du côté académique que du côté des internes.
J'imagine que vous savez ce qu'on raconte.
À propos?
Eh bien, à notre sujet.
Ah, ça...
C'est parce que vous êtes très belle.
Vous n'êtes pas mal non plus.
Enfin, quelqu'un qui me le dit.
Je ne dois pas être la seule.
Qui d'autre?
Je ne sais pas. Votre mari?
Stanislas est chercheur en mathématiques. Il ne dit pas de telles choses.
Diane, c'est toi?
Maman?
Mais tu es une vraie beauté maintenant. Je peux te parler?
Qu'est-ce qui se passe?
Célia est partie.
Comment ça?
Ta sœur a eu un enfant. Le savais-tu?
Il me semble l'avoir entendu dire, oui.
C'était l'année dernière. Elle n'a jamais voulu me dire qui était le père. Je ne serais pas étonnée qu'elle l'ignore. Célia, depuis ses 18 ans, s'est mise à sortir sans cesse, à beaucoup boire. D'après la rumeur, elle a multiplié les liaisons avec des hommes plus âgés.
Épargne-moi les cancans, d'accord?
Bref, elle a eu une fille, Suzanne. Elle est partie il y a 1 semaine sans dire où elle allait, en me laissant la petite. Avec cette lettre.
Maman, je sens que je suis en train de commettre avec Suzanne les erreurs que tu as commises avec moi. Je l'aime trop, je ne peux pas m'empêcher de la garder tout le temps dans mes bras, de la couvrir de baisers. Je n'ai pas envie que ma fille devienne comme moi, une épave sans volonté, juste bonne à coucher avec n'importe qui. Et puis j'ai 20 ans et je veux que ma vie commence. Alors je pars loin sans te dire où je vais. Je te laisse Suzanne, j'ai observé que tu l'aimais, sans délirer à son sujet comme tu l'as toujours fait à mon égard. Peut-être seras-tu enfin pour ma fille ce que tu n'as jamais été pour les tiennes. Une bonne mère. Célia. C'est formidable ce qu'elle fait.
Tu trouves? Moi qui venais te demander de partir à sa recherche.
T'es folle? Jamais je ne ferai une chose pareille. D'abord parce que je l'approuve. Ensuite parce que même si je ne l'approuvais pas, elle est adulte.
Comment peux-tu l'approuver?
Célia ne veut pas reproduire tes erreurs. C'est une sacrément bonne raison. Elle ne veut pas étouffer Suzanne sous les tonnes de bisous et de cajoleries que tu lui as infligées pendant son enfance.
C'était parce que je l'aimais. En quoi est-ce mal?
Il faut croire que ça l'est, puisqu'elle s'en plaint. Elle s'en était déjà plainte à moi quand elle était petite.
J'ai été une mauvaise mère, alors ?
Pas avec Nicolas. Lui, il va très bien. Je le croise souvent à l'université.
Toi aussi, tu sembles aller très bien.
Non, je ne vais pas bien. Je suis froide. Tu te rappelles ? C'est ce que tu disais toujours à mon sujet.
C'est vrai. Tu l'as toujours été.
Non, je ne l'étais pas quand j'étais petite. Je me suis forcée à le devenir pour te supporter.
Je ne t'ai jamais maltraitée.
Maman, j'ai quitté la maison quand j'avais 15 ans.
Oui, je n'ai pas compris pourquoi.
Pourtant, tu as dit à la ville entière que je ne me remettais pas de la mort de mes grands-parents. À aucun moment, tu n'as soupçonné que je suis partie à cause de toi.
Non. C'était à cause de moi.
Sais-tu que l'amnésie n'est pas une excuse, maman?
Une excuse pour quoi?
Es-tu toujours jalouse, maman?
Qu'est-ce que tu racontes?
Est-ce que Célia est aussi belle que tu l'étais? Je ne l'ai plus vue depuis 10 ans.
Oh oui. Elle est devenue une si belle jeune femme. Ma fierté. Et pourtant, je dois dire que tu es encore plus belle qu'elle. Et si tu revenais à la maison? Tu n'as que 25 ans. On pourrait essayer de rattraper tout ce temps perdu.
Il est trop tard, maman.
Trop tard pourquoi?
Tu sais que je suis interne. Ma vie se passe en grande partie à l'hôpital.
Il paraît qu'on te voit beaucoup avec une femme de mon âge, un professeur.
Tu recommences avec les cancans.
Qui est-ce?
Elle est maître de conférence en cardiologie. Elle s'appelle Olivia Aubusson.
Olivia. C'est drôle. C'est le prénom que j'avais choisi pour toi.
Vraiment?
Oui. Ton père s'est interposé.
Faut que j'y aille. Sois une bonne mère pour Suzanne, maman.
Bien sûr. Au revoir, ma fille.
En définitive, Diane eût préféré que cette conversation avec sa mère n'ait pas eu lieu. Home is where it hurts. À la douleur qu'elle éprouvait, elle se rendait compte qu'elle avait renoué avec la maison de son enfance.
Désolée pour le retard.
Quelle mine de déterré.
J'étais de garde cette nuit.
D'habitude, vous n'avez pas cette tête-là le lendemain.
Alors, mesdames, comme d'habitude.
Oui, merci. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas l'eau plate.
Bien.
Olivia, j'ai réfléchi. Mm-hmm. Il faut que vous passiez l'habilitation.
Quelle mouche vous pique.
Cela fait longtemps que j'y pense.
Et c'est pour ça, cette aire de cadavre?
Vous ne cessez de plaisanter à ce sujet. En vérité, vous riez pour ne pas en pleurer. C'est tellement injuste que vous n'ayez pas le titre de professeur.
Je m'en fiche.
Si cela vous était vraiment égal, vous n'en parleriez pas tant.
Je n'en parle que pour dénigrer ceux qui ont le titre.
Justement, vous, vous mériteriez d'être professeur.
Arrêtez, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Pour se présenter à l'habilitation, il faut avoir publié une douzaine d'articles. Je serais incapable d'en publier un seul.
Alors, les crudités et la sauce à part.
Merci.
Et l'eau plate.
Merci.
Ce ne sont pourtant pas les sujets qui vous manquent, ni le talent pour les rédiger.
Les revues qui comptent pour l'habilitation sont américaines. Il faut envoyer un article en anglais sur un support informatique. Deux obstacles infranchissables pour moi.
Je suis très bonne en informatique et en anglais. Ces articles, nous les écrirons ensemble.
Vous ne vous rendez pas compte. Même si vous n'étiez pas interne en cardiologie, ce sera un travail de fou. Vous ne pourrez pas cumuler.
Chiche.
Diane, cela prendra au minimum 2 ans de travail acharné.
Raison de plus. Ne perdons pas de temps. Il faut s'y mettre tout de suite.
Cela signifie que pendant 2 ans, vous n'aurez pas d'autres fréquentations que moi.
Nous nous entendons bien. Finissez cette salade, Olivia. Nous avons du pain sur la planche.
Diane se sentit sauvée. Elle allait pouvoir penser à autre chose qu'à sa mère. Quant à la perspective d'une collaboration intensive avec cette femme formidable, elle la trouvait enthousiasmante.
Je suis incapable de me servir de cet ordinateur.
Je vais vous montrer.
Et pendant les 2 années qui suivirent, les deux amies passèrent tout leur temps libre dans le bureau. Elles y restaient souvent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Les dimanches, elles apportaient des provisions.
Qui est-ce qui s'occupe de votre fille ?
Stanislas est un excellent père. Il conduit la petite à l'école, revient travailler à la maison et ne rate jamais la sortie des classes.
Et vous ? Manquez-vous à quelqu'un ?
Non.
La première fois qu'un de ses articles fut publié, Diane ouvrit une bouteille de vin.
Notre rigueur a convaincu les Américains. Vous m'en servirez très peu.
C'est excellent pour les artères.
L'habilitation fut un succès. Au terme de l'exposé, le jury proclama que Madame Aubusson accédait au titre de professeur avec les félicitations du jury.
Vous avez été formidable. Bravo.
Vraiment ? Diane, permettez-moi de vous présenter Stanislas, mon mari. Je vous laisse faire connaissance.
Bonjour.
Madame.
Mesdames et messieurs, chers amis, puisqu'on me demande de prononcer quelques mots, il me vient à l'esprit ceci. C'est à l'âge de 15 ans, en lisant Alfred de Musset, que j'ai découvert la célèbre phrase « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». L'adolescence connaît de ses fulgurances. J'ai su aussitôt que je vouerais mon avenir à l'étude de cet organe.
Quelques jours plus tard, elle trouva un mot dans son casier.
Désolée de ce malentendu. Venez dîner chez moi ce soir à 20h, en toute simplicité.
Bonjour Diane, je n'ai pas fini de préparer le dîner. Ne vous attendez pas à des merveilles, ce n'est pas mon domaine.
De la salade et des crudités. J'aurais dû le parier.
Vilaine fille, puisque vous vous moquez de moi, vous irez mettre le couvert pour la peine.
Comme Diane disposait les assiettes, elle distingua deux yeux furtifs qui l'épiaient. Ce devait être la fille d'Olivia. Elle se rendit compte qu'elle ne connaissait pas son prénom.
Bonsoir. Comment t'appelles-tu ?
Eh bien, Marielle, tu as perdu ta langue ?
Comme elle est mignonne.
Elle est très sociable, comme vous le remarquez.
C'est de son âge.
Ah oui, vous étiez comme ça à 12 ans, vous ?
Chacun grandit à son rythme.
Grandir, je ne sais pas si c'est le bon terme. Tiens, elle a déposé son carnet sur la table.
Ça ne va pas ?
C'est comme d'habitude.
Je peux aller la voir ?
Si vous voulez. Et puis, rapportez-lui son carnet. Je vois que vous regardez la médaille au mur. C'est la médaille Fields. Stanislas l'a remportée à l'âge de 39 ans. Ne travaille pas trop tard, chérie. En passant dans le couloir, vous l'avez vu coucher sur son lit, les yeux grands ouverts sur le plafond ? Eh bien, c'est ainsi qu'il pratique la recherche en topologie.
J'ai apporté des chocolats.
Sers-toi, ma chérie.
Marielle, tu peux en prendre plusieurs si tu veux.
Il n'en est pas question. Cela fait grossir.
Elle est maigre comme un clou.
Ben, encore faut-il qu'elle le reste.
Mais maman...
Il n'est jamais trop tôt pour avoir une bonne hygiène de vie. L'abus de chocolat au lait joue un rôle non négligeable dans l'essor des maladies cardiovasculaires.
Il va falloir que j'y aille. J'ai des copies à corriger.
Mais vous ne pouvez pas vous en aller aussi vite. J'attendais ce moment depuis si longtemps.
Vraiment, je dois me sauver.
Vous en êtes sûre ?
Mais je pourrais revenir demain, si vous le souhaitez.
Excellente idée.
J'arriverai vers 18h, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Il ne pouvait s'agir que d'une coïncidence.
Comment eût-il pu y avoir la moindre commune mesure entre cette pauvre gosse traumatisée et sa propre enfance? Surtout, quel rapport y aurait-il entre la si brillante Olivia Aubusson et sa mère? Elle se défendit d'approfondir le sujet. Ce devint un rituel. Un jour sur deux, Diane rejoignait Marielle à 18h et l'aidait à faire ses devoirs.
Diane ?
Oui ?
Ne trouvez-vous pas odieuse cette culpabilisation des mères à l'heure actuelle ? Avez-vous remarqué que tous les prétextes sont bons pour leur faire honte de ne pas s'occuper assez de leurs enfants ? Et sur les pères, pas un mot.
Vous avez raison. Il est intolérable qu'on n'inclue pas les pères dans cette culpabilité. Sauf bien sûr quand les pères sont à la limite de l'autisme.
Savez-vous que Stanislas est étonnant ? Toujours à l'heure pour conduire la petite à l'école et pour aller la rechercher. Moi, cela me fend le cœur quand je vois des enfants traîner devant le collège en attendant leurs parents.
Stanislas est en effet d'une exactitude impressionnante pour les tâches qui lui sont imparties.
Votre dévouement me touche, Diane. Mais ne perdez pas votre temps précieux. Marielle ne sera jamais un génie, vous savez.
Je me contente de l'aider à réussir sa sixième. Elle progresse beaucoup.
Et votre thèse ? Et vos études ?
Vous savez, je consacre à votre fille moins d'heures que je ne vous consacrais à vous quand vous prépariez l'habilitation.
Ça devait être un peu plus enrichissant pour vous, je pense.
Ce n'est pas comparable. Mais je m'entends très bien avec Marielle.
Ce genre d'enfant est très attachant, c'est connu.
Marielle et Diane s'attachèrent profondément l'une à l'autre. Quand la jeune femme arrivait, l'enfant se jetait dans ses bras. Diane ne se contentait pas de l'aider à faire ses devoirs. Constatant que ses cheveux étaient sales, elle lui conseilla de les laver plus souvent.
Diane, il faut que je vous parle.
Je vous écoute.
Je voudrais me consacrer davantage à la recherche. Depuis l'habilitation, j'ai tendance à me reposer sur mes lauriers. C'est inadmissible. Cela tombe bien, j'ai beaucoup d'idées.
Bravo!
C'est là que j'ai besoin de vous. Pourriez-vous, une fois sur deux, donner cours à ma place?
Je ne suis pas professeur. J'en serais incapable.
Allons donc, bien sûr que vous en êtes capable. Vous êtes une jeune personne d'une intelligence exceptionnelle. Rien ne vous résiste.
Merci. Mais cela va me prendre beaucoup de temps.
J'y ai réfléchi. Ce temps ne sera pas perdu. Vous en tirerez le plus grand profit pour votre thèse, vos études, et cela va sans dire pour l'obtention du titre de maître de conférence.
Je n'en suis pas là.
Nous y arriverons. Évidemment, cela vous laissera moins le loisir de vous occuper de Marielle.
J'aurai toujours du temps pour Marielle.
Bien sûr.
Diane entra dans une nouvelle phase de surmenage. Entre les cours d'Olivia, les siens et sa thèse à préparer, les études à poursuivre, les nuits de garde à assurer et les heures consacrées à Marielle, il ne lui restait qu'une moyenne de 2 heures de sommeil par jour. Sa fatigue était si intense que si elle avait le choix entre manger et dormir, elle n'hésitait jamais. Dormir était devenu le Graal.
Je ne sais pas comment je fais pour tenir.
À ce régime, elle maigrit davantage.
Entrez. Elisabeth ?
Tu ne réponds plus au téléphone, alors me voici.
Pardonne-moi, je travaille comme une brute.
Tu as l'air d'un zombie. Raconte-moi ce qui se passe.
J'ai un boulot de dingue. Je remplace Olivia pour ses cours, une fois sur deux, plus les corrections de copie et la thèse.
Tu es payée au moins ?
Bien sûr. Pour l'argent, elle a toujours été très claire.
Il y a donc des domaines où elle l'est moins ?
Qu'est-ce que tu insinues ?
Tu n'as pas l'impression qu'elle se sert de toi.
Quel était le motif de ta visite, au fait ? Tu ne t'es pas juste déplacée pour savoir si j'étais en vie.
Je suis venue t'inviter à mon mariage.
Quoi ?
Petit test, qui est-ce que j'épouse ?
Pas mon frère, quand même.
Ça ne va pas, non ? Je te rappelle qu'il est marié.
Il est peut-être divorcé, depuis le temps.
Tu as rompu avec le monde entier, à ce que je vois. Est-ce que je t'invite avec Olivia?
Non. Pourquoi?
La politesse exige qu'on invite les deux membres d'un couple.
Je ne suis pas en couple avec elle. Je ne suis pas amoureuse d'elle, ni elle de moi.
En tout cas, si tu n'es pas en couple avec elle, tu n'es en couple avec personne.
Si c'était ce que tu voulais savoir, il suffisait de poser la question.
Comme tu es devenue irritable. Écoute, je me marie le 30 mars. Si tu n'es pas là, je viendrai te chercher. Tu ne pourras pas te défiler.
Je te présente Philippe.
Bonjour, enchantée.
Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait là?
Olivia? Je l'ai invitée avec son mari. C'est un problème pour toi?
Non. Elle est... rayonnante.
Diane, tu ne pourrais pas regarder quelqu'un d'autre.
Je t'avais demandé de ne pas l'inviter.
Je ne regrette pas de t'avoir désobéi. Cela me permet de mesurer la gravité de la situation.
Tu as fini de me juger?
Je ne te juge pas, je m'inquiète. Tu es en train de sombrer dans quelque chose d'horrible. Arrange-toi pour ne plus fréquenter cette femme, crois-moi.
Tiens, quand on parle du loup...
Comment, Diane? C'est donc vous, ce joli porte-manteau?
Vous, la recherche vous réussit? Vous êtes éblouissante. Oui, on voit tout de suite que vous êtes admirablement secondée.
Oh, excusez-moi.
Oh, mais ça y est, je me souviens de votre...
Pas un beige.
Elle n'était pas comme ça quand je l'ai rencontrée.
Veux-tu cesser d'excuser? Elle est odieuse. Et regarde-la en train de jacasser et de se faire mousser. Tu t'es donné un mal de chien pour qu'elle ait le titre de professeur et elle s'en sert pour pérorer en société. Et maintenant, je t'ordonne de te gaver de petits fours. Ta maigreur m'afflige.
Je suis désolée pour l'autre jour.
De quoi parlez-vous?
Mariage de votre amie. Mais j'ai été absurdement désagréable envers vous. Je sais pas ce qui m'a pris.
C'est oublié.
Tant mieux. Vous comptez beaucoup pour moi, vous savez. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous proposer. J'aimerais vous tutoyer. C'est d'accord? Je suis tellement contente. C'est beaucoup plus sympathique.
J'aurais besoin de ton indulgence. Je risque de me tromper souvent.
Aucun problème. Nous aurions dû passer au-dessus depuis longtemps. C'est en entendant Marielle te tutoyer que j'y ai pensé.
Olivia?
Oui?
Je pourrais plus assurer tes cours. Ma soutenance de thèse est en septembre. Je suis loin d'être prête.
Je t'aiderai.
C'est pas nécessaire.
Je peux te faire bénéficier des astuces de mon expérience.
Après tout, pourquoi pas?
Le dévouement d'Olivia l'étonna. Au lieu de partir en vacances, elle resta tout l'été auprès d'elle pour lui prodiguer les meilleurs conseils. Une semaine avant la soutenance, dans l'appartement des Aubusson, Diane tomba sur une grande enveloppe en papier kraft qui n'était pas fermée. Il s'agissait des épreuves corrigées d'un article d'Olivia. Il se basait sur les éléments les plus personnels et les plus brillants de la thèse de Diane, dont le nom n'apparaissait pas une seule fois dans les notes.
Je ne vais pas compromettre mon avenir à cause de ce monstre. D'autant qu'elle fait partie de mon jury de soutenance. Je vais serrer les dents jusqu'à demain. Ensuite, je romps sans explication. Sinon, je la tue.
Et le jour J, Diane fut reçue avec les félicitations du jury.
Je savais déjà que tu étais bonne à l'oral, mais là, tu m'as impressionnée.
J'ai quelque chose à t'annoncer.
Je t'écoute.
Je quitte l'université.
Pardon?
Tu m'as très bien entendu.
Tu ne peux pas me faire ça.
Cela n'a rien à voir avec toi. Mon projet a toujours été de soigner les gens et non d'enseigner.
Mais tu enseignes divinement. Et tu m'annonces cette abomination après ta soutenance?
Pourquoi cela te choque-t-il? Tu ne m'aurais quand même pas pénalisée si je te l'avais annoncé avant.
Et comment vais-je faire sans toi?
Tu es gentille. Tu n'as aucun besoin de moi.
Mais bien sûr que si. Je n'aurais plus le temps de m'adonner à la recherche.
Tu as pris beaucoup d'avance dans ce domaine ces derniers mois.
Je vois. Tu as fouillé dans mes affaires.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Pauvre idiote. Cela s'est toujours passé ainsi chez les chercheurs. Si tu te vexes pour si peu, c'est que tu n'as rien compris.
Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes.
Tu as raison, fille innocente. Tu vas voir ce qui t'attend. Les malades, les patients, c'est la lie de l'humanité. Tu vas regretter les étudiants, ma petite.
Je regretterai surtout les professeurs.
Plaisante, ma chérie, plaisante. Ici, tu vis dans l'intelligence. Tu vas découvrir les patients d'un cardiologue. Docteur, je ne comprends pas, j'ai suivi toutes vos recommandations. En choisissant la cardiologie et la recherche, nous optons pour la noblesse. En exerçant en tant que médecin, nous ne soignons que des cochons.
J'accepte d'être vétérinaire.
Comment peux-tu renoncer à l'intelligence, toi qui es allergique à la bêtise?
Il n'y a pas qu'à la bêtise que je suis allergique.
Vas-y, accouche.
Tu sais tout.
Je sais ce que tu me reproches le plus. Tu trouves que je suis une mauvaise mère. De quel droit me juges-tu? Nous verrons quelle mère tu seras si, comme moi, tu as la malchance d'avoir un enfant moins brillant que toi.
Je ne serai pas mère.
Qu'en sais-tu?
Je le sais.
Ma foi, je vois ce que tu veux dire. Quand je t'ai rencontrée, tu étais la beauté même. À présent, que reste-t-il de ta splendeur? Qui voudrait de toi maintenant? Ne reviens pas chez moi, tu n'es pas la bienvenue. Et tu ne reverras plus Marielle.
C'est le seul point qui m'attriste.
Marie, c'était délicieux, comme d'habitude.
Les petits n'ont rien mangé.
Mais si.
À peine. Ça ne leur a pas plu.
Eh ben moi, je vais finir leurs assiettes.
Tu exagères.
Fidèle à son inexorable habitude, la vie continua. Diane exerça à plein temps au service de cardiologie de l'hôpital. Les patients l'adoraient. Quel que fût leur problème, elle les écoutait avec un respect qui les rendait capables de changer leurs habitudes si elle le leur demandait. Malgré sa charge de travail, elle adopta un rythme beaucoup plus sain. Elle recommença à dormir chaque nuit et recouvra l'appétit. À ce régime, elle ne tarda pas à redevenir une beauté. Elle décida de renouer avec sa famille. Sa mère, qui s'occupait parfaitement de la petite Suzanne, prit le pli d'inviter chaque dimanche midi Diane, Nicolas, son épouse et leurs enfants. Le frère et la sœur se retrouvèrent avec bonheur et effusion. Marie recevait chaque année, pour son anniversaire, une carte postale de Célia. À en juger d'après les lieux d'expédition, elle faisait le tour du monde à pied. Élisabeth eut deux fils, Charles et Léopold. Marraine du dernier, Diane aimait tendrement les deux frères qui l'appelaient Tati. Les prétendants ne manquèrent pas. Diane les y conduisit tous, sans exception. Elle ne revit jamais Olivia. Parfois, elle entendait parler d'elle. Cela lui était toujours désagréable. 5 ans plus tard, elle apprit que Marielle était déscolarisée. Elle en conçut du chagrin. Les années passèrent encore. Diane devint propriétaire d'une jolie maison dans les beaux quartiers de la ville. Elle découvrit avec joie l'art de jardiner. En janvier 2007, Diane eut 35 ans. Un jour, un policier se présenta chez elle.
Bonjour madame.
Bonjour.
Police nationale. Je suis au regret de vous annoncer que Olivia Aubusson a été assassinée. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Que faisiez-vous dans la nuit du 15 au 16 janvier?
La nuit du 15 au 16 janvier, je fêtais mon anniversaire chez une amie, Elisabeth. Je n'ai pas revu Olivia Aubusson depuis 7 ans. Comment a-t-elle été tuée?
20 coups de couteau dans le cœur.
Oh! Comment va son mari?
Madame, c'est à moi de poser les questions. Olivia Aubusson avait-elle une liaison? Vous avez été très proche d'elle.
Oui, pendant 3 années, nous avons été amis.
Quelle était la nature de cette amitié?
Professionnelle, entre autres. Je me suis également occupée de sa fille pendant près d'un an.
Parlez-moi de cette fille.
Marielle. À l'époque, elle avait 12 ans. Depuis, j'ai appris qu'elle avait quitté le lycée. C'est tout ce que je sais.
Et elle s'entendait bien avec sa mère?
Aucune idée. Il y a 10 ans, elle l'adorait.
On a retrouvé devant le domicile de la victime des traces de pneus qui n'étaient pas celles de sa voiture. Savez-vous si Marielle conduisait ?
Comment le saurais-je ?
Madame, c'est moi qui pose les questions. Pourquoi avez-vous cessé de voir Olivia Aubusson ?
Un différend nous a opposés.
De quelle nature ?
Professionnelle. Je ne voulais plus travailler avec elle à l'université.
Pourquoi ?
Ce n'était pas ma vocation. Je voulais être médecin et non enseignante. Elle l'a mal pris, le ton est monté. Notre amitié s'est terminée. Je crois que c'est tout.
Bien. Recontactez-moi si un élément intéressant vous revient en mémoire. Madame ?
Monsieur ?
Diane n'eut pas besoin de réfléchir pour comprendre qui était l'assassin. Quand on tue quelqu'un de 20 coups de couteau dans le cœur, il s'agit d'un crime passionnel. Elle savait avec certitude qui lui vouait un amour déçu depuis près de 20 ans. N'était-ce pas infiniment plus grave qu'une liaison qui finit mal ? Un amour si profond, si inguérissable, si indispensable, si inconsolable, auquel Olivia n'avait répondu que par le mépris. Le choix de la date du meurtre était une signature qui lui était destinée. Diane se rappelait que l'assassin aurait 20 ans le 6 février. Elle n'avait qu'à attendre. Le 6 février, on frappa à sa porte.
Diane ! Diane, j'ai nulle part où aller !
Bon anniversaire, Marielle. Entre ! Tu es ici, chez toi.
C'était « Frappe-toi le cœur » d'Amélie Nothomb. Adaptation, Victoria Cahario. Avec Marina Moncade, la narratrice. Françoise Cousin, Marie. India Air, Diane. Lorenzo Lefebvre, Olivier. Catherine Tartarin, Olivia. Vincent Bramoulet, l'homme-cœur. Lydie Ledeuf, la femme-cœur. Sophie Gubry, la grand-mère. Laurent Claret, le grand-père. Fabrice Herbeau, le médecin. Pauline Ziadé, Elisabeth. Antoine Sastre, le policier. Et Élodie Vincent, Cécilia Dassonville, Stéphane Sestac.
Et bien d'autres.
Bruitage, Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe de réalisation, Manuel Couturier, Lucas Vaillant, Sophie Pierre, Jean-Mathieu Zande. Frappe-toi le cœur est paru chez Albin Michel.